Résistance sud-africaine vit aujourd'hui des heures graves. La campagne de désobéissance civile entreprise par la population noire pour protester contre les lois de ségrégation raciale a commencé dans le sang. Au milieu de cette atmosphère explosive, on voit mal comment le gouvernement pourrait maintenir par la force les lois raciales imaginées par le célèbre docteur Malan, contre lesquelles sont dressés désormais les 11 millions de Noirs de l'État sud-africain.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Amaury Chardot.
Une page d'histoire mise en musique, Jukebox, qui a pris ses quartiers d'été, vous propose chaque week-end à 19h une série de rediffusions. Bonsoir à tous. Il y a 30 ans, en février 1990, était libéré Nelson Mandela. L'occasion de nous plonger ce soir et demain dans l'histoire récente de l'Afrique du Sud et d'abord donc dans celle des années d'apartheid, système ONI mis en place à partir de 1948. Idéologie folle, ségrégationniste et ultra-répressive, l'apartheid n'avait pu empêcher, tandis qu'éclataient et se multipliaient les révoltes dans la misère des townships, que ne se fassent entendre des contestations, voix des opposants politiques, mais aussi celles des musiciens et chanteurs qui, faisant fi de l'état policier, de la censure et des persécutions, avaient participé, en constituant un impressionnant patrimoine musical, à jeter l'opprobre et finalement à faire chuter cet archaïsme hideux. Ce soir, Jukebox, l'Afrique du Sud, la musique contre l'apartheid. Ce samedi soir, ils sont des centaines agglutinés au club Pélican, l'une des rares boîtes de nuit de Soweto et qui, depuis les années 70, bâtissait week-end après week-end sa légende. Tandis qu'à ses côtés, un type lui parle depuis un moment syndicalisme et lutte d'émancipation des travailleurs, qu'autour les tsotis, les loupards du coin baratinent. Un jeune type d'une vingtaine d'années, sa canette de bière à la main, écoute distraitement. Il n'a Dieu que pour la liane qui se déhanche à quelques mètres de lui parmi les adolescents en sueur. Au cou de la fille en question, reflétée par la boule à facettes du plafond, une petite chaîne scintille, mais lui sait que ce n'est pas de l'or. Cet or dont le pays, l'Afrique du Sud, reste le premier producteur au monde, mais qui n'est réservé de facto qu'aux blancs, ceux qui, au même moment, sifflent des gin toniques au bord de leur piscine ou prennent leurs aises dans des fauteuils de cuir cirés par leurs domestiques noirs. Mais foin d'apitoiement. On dit d'ailleurs, pleurer à Soweto, c'est idiot. Et de fait, il pourrait être ailleurs parmi les miséreux qui, en ce moment, noient leur salaire dans les shebeens, les débits clandestins de boissons, en attendant les descentes de flics et leurs mitraillettes. Dans la salle du fond, il aperçoit un groupe de gamins jouer au billard. L'un d'eux porte un blouson floqué de l'inscription « Even God loves Soweto », « Même Dieu aime Soweto ». Ce début des années 1980, pourtant, Dieu se faisant attendre, faute d'éclaircie, la classe moyenne noire d'Afrique du Sud, qui n'avait connu que l'oppression et la relégation, se réfugiait dans la fête et dans les quelques clubs pélicans du pays. Notre type, lui, ce soir, oublie le township, les kilomètres de barbelés, les bus brinque-ballant sur les routes de terre, les flingues cachées sous les vestes et les rixes dans les hôtels zoulous surpeuplés. Il se concentre sur le corps de cette fille et sur les beats implacables que déroulent les Goomba Goomba, les enceintes géantes de la sono. Il tend sa bière à son voisin, qui n'a entre-temps cessé de jacter, et il s'approche de la fille. La nuit lui appartient.
Oh,
Le groove funk du groupe Cannibals pour ce Hey Tonight de 1981, tandis que l'Afrique du Sud, au pire de la répression, combattait ses démons, mais qu'il fallait bien continuer à vivre, à aimer, à s'amuser, en attendant que ne s'effondre enfin le funeste édifice de l'apartheid. L'apartheid, qui s'était donc instauré à la fin des années 1940 sous l'égide du pouvoir blanc, celui des Afrikaners, descendants des premiers colons hollandais, mais aussi dans une moindre mesure français, débarqués à la fin du XVIIe siècle dans cette extrémité méridionale du continent africain, et notamment au Cap, afin de fuir les persécutions religieuses dont ils faisaient l'objet en Europe. Mis au pas par les Britanniques à l'issue des guerres des Boers, ces fermiers protestants hollandais, bien décidés à faire de ce vaste territoire un bastion blanc en Afrique, avaient néanmoins peu à peu été gagnés par une frousse terrible et irrépressible, celle d'être avalés par les populations noires nettement plus nombreuses qu'eux. À la veille des années 1950, on compte en Afrique du Sud moins de 2 millions de blancs contre 11 millions de noirs. Cette minorité blanche avait donc commencé à ériger un véritable camp retranché et législatif censé la protéger. Comme pour toutes les entreprises de cette envergure, il avait fallu un architecte. Celui de l'apartheid s'appelle Hendrik Verwoerd, alors Premier ministre de l'Union d'Afrique du Sud, encore pour quelque temps rattaché au Commonwealth. Cet arsenal législatif, dont il serait indigeste d'énumérer d'un coup toutes les composantes, avait débuté par l'interdiction des mariages mixtes en 1949, suivie par celle des relations sexuelles entre noirs et blancs l'année suivante. Puis, toujours en 1950, avait été édictée une loi répartissant les zones d'habitation urbaine, déterminant des quartiers réservés aux noirs et d'autres aux blancs, ce qu'on avait appelé le Group Areas Act. L'idéal serait évidemment de pouvoir vivre complètement séparés. Mais voilà, les Blancs d'Afrique du Sud et leur mentalité de parfaits petits colons racistes retranchés derrière leur foi ne pouvaient souffrir de vivre sans domesticité ou sans une armée de sous-hommes exploités pour accomplir à leur place les basses besognes. Il fallait donc bien laisser entrer quelques loups dans la bergerie, à condition d'encadrer les choses. Ce qui avait été fait en 1952 par l'instauration d'un passeport intérieur, lequel inscrit, noir sur blanc, les zones où les noirs sont autorisés à se rendre à des heures bien précises pour gagner leur croûte et servir de valet. Last but not least, en 1953, un texte légiféré sur l'organisation d'aménagements publics distincts. Autrement dit, la partie la plus évidente de l'apartheid, des entrées aux bâtiments publics réservés aux noirs et d'autres dédiés aux blancs, des bus pour les uns, d'autres pour les autres, etc., etc. Cette ségrégation, c'est vers 17h qu'elle s'observe le plus aisément à Johannesburg, grosse métropole de 300 000 âmes située au sud de Pretoria, la capitale administrative, et qui avait prospéré depuis qu'y avait été découvert à proximité et à la fin du 19e siècle de juteux filons d'or. Johannesburg, cette fin des années 50, affiche une richesse insolente, de rutilants gratte-ciel, un réseau dense d'autoroutes, une bourse aux matières premières. Le soir venu, la ville se devait néanmoins d'être sécurisée et donc débarrassée de ses inquiétantes peaux sombres. Ainsi donc, chaque fin d'après-midi, ces rues se gorgent de centaines de milliers d'employés, salariés, ouvriers, noirs ou métis, lesquels sont rangés à la même enseigne, regagnant leurs pénates, aménagées à l'écart à plusieurs heures de train. Leurs pénates, leurs villes réservées, qu'on appelle d'abord des locations. À la fin des années 50, pour faire bonne figure, le gouvernement tâche d'en éliminer l'insalubrité la plus choquante, détruisant nombre de taudis pour les remplacer par des alignements de petites cahutes hâtivement bâties, sans salle de bain, mais avec des toilettes dans un cabanon au fond du jardin. Bientôt, on abandonnera l'appellation de location pour celui de township. L'un d'eux s'appelle Meadowlands, comme le titre de la chanson suivante.
Middle East.
composé par un certain Strike Vilakazi, ce Meadowlands, interprété en 1955 par le groupe Nancy Jacobs and Her Sisters. Meadowlands, du nom d'un quartier du township de Soweto, construit au milieu des années 50, afin d'y regrouper les Noirs qui vivaient jusqu'alors à Sophiatown, l'une des villes de la banlieue de Johannesburg, et qu'il convenait, pareillement à la métropole, de nettoyer de ces non-blancs. Townships, donc, ces centaines de bidonvilles et leurs rues rectilignes et déprimantes, dénuées de tout arbre, mais pas de lampadaires allumés de jour comme de nuit, afin de parer à toute révolte. Ces townships, où des millions de Noirs ou de Métis sont donc contraints de se regrouper à la nuit tombée. Ils n'ont pas grand-chose à y faire, à part, pour les hommes, se retrouver dans les beer halls, d'immenses débits de bière. On n'est jamais trop prudent. N'y est autorisé qu'une boisson très diluée à base de maïs faiblement alcoolisé, 3 degrés environ, et rationnée à 2 litres par personne et par jour. Une bière servie à la chaîne dans des brocs en plastique plongés dans d'immenses bassines. C'est à peine plus raffiné et hygiénique que si l'on devait étancher la soif de bétail, mais faute de mieux, cela constitue pour les habitants un indéniable réconfort à d'harassantes journées de travail. Pourtant, bientôt, cela ne suffit plus à contenir les colères. D'autant qu'à Meadowlands, comme dans d'autres townships de Soweto ou d'ailleurs, on manque de presque tout. D'hôpitaux pour soigner les malades, comme de salles de classe pour éduquer les enfants. Le groupe The Four Youngs pour ce Msenge de 1962, chanté en Xhosa, la deuxième langue du pays après le Zoulou, et dénonçant les violences sociales et les meurtres commis par une partie de la jeunesse noire de plus en plus démunie face à la pauvreté et la ségrégation.
Hope man, something new in Africa.
Face à l'amenuisement de leur liberté, les Noirs d'Afrique du Sud avaient constitué des groupes d'opposition. On trouve d'une part l'ANC, le Congrès National Africain, fondé en 1912 et qui prône la collaboration avec les opposants, blancs ou métis, à l'apartheid, ainsi qu'une politique d'inspiration communiste. De l'autre, le PAC, pour Congrès Panafricain d'Azanie, émanation récente et nettement plus radicale de l'ANC, défavorable, elle, à toute discussion avec les Blancs et farouchement anticommuniste. En mars 1960, le PAC tente de prendre l'ascendant sur l'ANC. Son leader appelle soudain ses partisans à une opération visant à obtenir l'abrogation du passeport intérieur, ce fameux document que tout jeune de plus de 16 ans, noir ou blanc, se doit de porter sur soi afin de justifier sa présence ici ou là. Comme convenu, le jour J, des milliers de manifestants noirs se massent devant les commissariats afin de se constituer prisonniers, notamment à Sharpeville, dans la province du Transvaal, au nord-est du pays. Là, ce 21 mars 1960, ils sont près de 7000 aux abords du poste de police, pacifique ou un peu moins, les versions divergent sur ce point. Mais il semblerait qu'un manifestant éméché, tirant un coup de feu en l'air, entraîne l'engrenage fatal, la riposte des policiers qui tirent, tuant 69 manifestants et en blessant presque 200 autres. Ça commence à faire sérieusement désordre. L'opinion internationale s'émeut. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution condamnant l'action du gouvernement local, malgré la lâcheté et l'abstention de Paris et de Londres. Pour régler les choses, les autorités de Pretoria décident tout simplement de sortir du Commonwealth et de fonder, au printemps 1961, la République d'Afrique du Sud. Sur le plan intérieur, pour prévenir la contagion de la révolte, l'ANC comme le PAC sont interdits, même s'ils continuent leurs activités clandestinement, décidant de radicaliser leur action. Résultat, en 63, la police sud-africaine perquisitionne une maison de la banlieue de Johannesburg à Rivonia, où une dizaine de membres de l'ANC, ou plutôt de sa branche armée, se sont réunis. Certains de ces types sont noirs, d'autres non, mais tous sympathisants de la cause anti-apartheid.
The planned purpose thereof was to bring about in the Republic of South Africa chaos.
Did you ever think slogan on war?
We talk. Sir, how did you choose your men?
To defy the gun.
I wish you were in a position of an athlete. I wish you were an athlete. No, the situation is intact.
Inculpés de sabotage, six de ceux-là sont, au terme d'un procès retentissant, envoyés croupir à l'ombre pour le restant de leur jour. On trouve Walter Sisulu, Ahmed Katrada, mais aussi, opportunément ajouté à la liste des condamnés, un avocat noir proche de l'ANC, arrêté quelques mois plus tôt pour avoir appelé des ouvriers à se mettre en grève. Cet homme, c'est Nelson Mandela. Les années suivantes, c'est donc depuis l'étranger que l'ANC, interdite, poursuivra sa lutte.
Bye.
France Culture, Jukebox, ce soir l'Afrique du Sud, la musique et l'apartheid. Enregistré en août 1959, ce Wile Ngwana Bato, composé par Myriam Makeba et interprété aux côtés de son groupe The Skylarks. Wile Ngwana Bato, autrement dit, notre enfant est parti, dont les paroles déplorent. Au revoir à tous ceux de notre peuple, elle est partie, Zenzi est partie et ne reviendra pas. Zenzi, qui était le vrai prénom de Myriam Makeba, prénom signifiant « tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même », même si tout dans l'histoire de cette fille disait le contraire. Elle, née en 1932 dans l'extrême pauvreté du township de Soweto, séparée quelques jours après sa naissance de sa mère, domestique, sa mère condamnée à 6 mois de prison pour avoir fabriqué de la bière afin d'arrondir les fins de mois de la famille. Elle, dont le père disparaît alors qu'elle n'a que 6 ans. Si Zenzi, alias Myriam Makeba, avait été responsable de son destin, cela avait plutôt été dans son succès ultérieur. D'abord bonne d'enfant, puis laveuse de taxi, elle était devenue, dans les années 1950, une chanteuse immensément populaire dans son pays. Dans la foulée de l'enregistrement de ce titre, l'été 1959, Myriam Makeba avait donc pourtant été contrainte à l'exil, tout comme nombre de chanteurs et musiciens noirs dont les paroles, inlassablement, dénonçaient l'apartheid. En 1960, tandis que Makeba trouvait refuge aux États-Unis, d'autres musiciens prennent pareillement la poudre d'escampette, comme un autre grand nom de la musique sud-africaine des années 1950, Hugh Masekela, que voici dans ce bouleversant Stimela.
Stimela, si hamba ngamalahle, si vele dala kubayi. Sangilahla kwafuka, bathi sizohamba malahle. Lelele Stimela. Hamba ngamalahle sivele dala kupayi sa ilasa kwafuka helele bathi sizohamba malahle helele njengezinja ebabe emigodini sikhalele izihlobo zethu
masibuyelele dala kubo
sikhalele izingane zethu wololo
masibuyelele dala kubo
Kalela wafasi etu baribelele yenene
wo Masibuyele netalaku
Stimela sihamba ngamalahle Sibele talaku Bye
si vede tala.
Il y a ce train qui vient de Namibie, du Malawi, de la Zambie, du Zimbabwe, d'Angola, du Mozambique, de tout l'arrière-pays de l'Afrique australe et centrale. Ces trains transportent des Africains, jeunes ou vieux, appelés à venir travailler dans les mines d'or de Johannesburg, 16 heures par jour pour presque pas un sou. 1974, Stimela, autrement dit le train de charbon, par le chanteur Hugh Masekela. Description des ouvriers arrachés à leur famille et emmenés de force dans des trains afin d'être exploités pour presque rien dans l'obscurité humide des mines d'or, de diamants, de manganèse ou de platine qui faisaient alors la richesse de l'Afrique du Sud. Installé aux États-Unis, Masekela pouvait dorénavant et avec succès chanter ce qu'il voulait, ce qui n'était pas le cas de tous les autres chanteurs restés au pays et dont les conditions de travail se compliquent singulièrement. Pour le pouvoir de Pretoria, l'apartheid, ce régime de séparation, doit également s'appliquer à la culture. La radio sud-africaine crée des départements indépendants destinés à fournir à chaque groupe de population des musiques supposées être les leurs, interdisant de fait les croisements entre les genres. Ainsi, Radio Springbok, s'adressant aux Blancs, aux Afrikaners, ne diffuse plus une note de musique noire. À l'opposé, les radios noires ne jouent que des titres ethniques censément traditionnels, ne sortant pas de leur case. L'industrie du disque répond de la même manière à cette politique d'étanchéité. Il y a les disques pour les Blancs et ceux pour les Noirs. Et puis il y a la censure qui craque. À la radio comme sur les enregistrements, toutes les allusions politiques, la présence des mots « paix » ou « pouvoir » suffisant à reléguer aux oubliettes une chanson. Même si beaucoup tirent leur épingle du jeu, comme l'illustre ce « Tiba Kamo » publié en 1975 par Philippe Malela.
Oh!
Tiba Kamo, le chanteur Philippe Malela, enregistré au Gallo Recording Studios de Johannesburg et sorti en 1975. L'année suivante, en 1976, le gouvernement tente d'imposer l'utilisation obligatoire de la langue africaine à l'école, reléguant les langues autochtones aux seuls cours de religion, de musique ou de sport. L'opposition à cette mesure naît dans les townships de Soweto. Fin avril, des écoliers refusent d'assister aux cours. La protestation s'étend peu à peu. Le 16 juin, 10 à 20 000 écoliers et étudiants noirs se rassemblent et défilent pacifiquement. Lorsque quelques pierres fusent néanmoins en direction des policiers, ces derniers ripostent sans demi-mesure. On comptera 23 morts, dont 21 noirs, et des centaines de blessés. Soweto s'embrase, l'ANC recrute à tour de bras. En 78, le premier ministre d'alors, John Vorster, démissionne à la suite d'un scandale politico-financier. Son ministre de la Défense, un certain Peter Botha, conservateur pragmatique, lui succède, lançant sans tarder quelques mesures censées déminer la situation, comme l'autorisation de former des syndicats de travailleurs noirs. Pendant ce temps, les musiciens noirs doivent faire avec l'accroissement de la censure et la promulgation en 1974 du Publication Act permettant à n'importe quel policier ou fonctionnaire de faire interdire chansons mais aussi films ou spectacles jugés obscènes, indécents, immoraux, blasphématoires. Résultat, des milliers de disques sont purement et simplement interdits. Malgré cela, malgré la censure, les entraves de circulation, les années 80 voient la montée de labels, Gallo, EMI ou bien quantité d'autres petits labels indépendants qui écoulent par millions, 33 tours ou cassettes. Plus que jamais, la musique incarne une forme de révolte. Et puis il y a l'opposition moins frontale, détournée, qui, en prônant la fête, l'amusement et la danse, permettent d'affronter le quotidien, exemple avec ce party du groupe Harari, 1980. I went to a party the other night. Everybody there was grooving right. Harari qui, depuis début des années 70, affolait l'Afrique du Sud par sa funk et son groove. Pour ce Party, extrait d'un album de 1980 intitulé Heat Wave, la vague de chaleur. À l'intérieur comme à l'étranger, la musique, on l'a dit, joue de plus en plus son rôle de dénonciation. Des artistes occidentaux s'engagent, qu'on songe à Peter Gabriel ou bientôt à Paul Simon de Simon & Garfunkel. C'est alors qu'était arrivé le 12 janvier 85. Ce soir-là est monté un concert géant au Ellis Park Stadium de Joburg au profit d'une œuvre de charité. 22 groupes répondent à l'invitation. Sans doute parce qu'il n'est pas un concert strictement politique, mais un événement de bienfaisance, le concert constitue un tournant. 125 000 spectateurs affluent, noirs et blancs, dansant toute la nuit côte à côte. Paroxysme de ce concert, la prestation de Djuluka, le seul groupe mixte programmé ce soir-là, formé autour du chanteur blanc d'origine britannique Johnny Clegg et du musicien noir Sifo Mshunu. Djuluka, qui, face à une foule chavirée, entonne alors son Scatterlings of Africa, autrement dit, ses vagabonds de l'Afrique. Scatterlings of Africa par le groupe Djuluka qui, pendant des années, avait payé son engagement interracial. Johnny Clegg se retrouvant de nombreuses fois arrêté et battu par les flics à cause de ses paroles très politiques. La musique, pourtant, ne peut pas tout. On ne change pas en un soir des décennies d'oppression. Les racistes blancs et la bourgeoisie d'affaires sud-africaine continuent à prôner le statu quo. Face à eux, les townships s'embrasent plus que jamais, les greffes se multiplient, les assassinats font couler le sang. Ce chaos conduisant 6 mois après le concert d'Ellis Park à l'instauration d'un nouvel état d'urgence dans 36 districts du pays.
La liste des morts et des prisonniers s'allonge en Afrique du Sud depuis l'instauration de l'état d'urgence samedi soir. 150 arrestations, 10 tués. Les autorités ont déjà annoncé qu'elles contrôleraient désormais les informations que donnent les journaux sur les émeutes et sur leur répression. Le prix Nobel de la paix, Mgr Desmond Tutu, a proposé une nouvelle fois, comme une dernière chance, de servir d'intermédiaire entre la communauté noire, dont il fait partie, et le gouvernement blanc.
Archives France Inter, 23 juillet 1985. Pourtant, les choses commencent à bouger. Les gouvernements du nouveau Premier ministre Peter Botha lancent de nombreuses réformes. Réduction des inégalités salariales entre blancs et noirs, autorisation des syndicats interraciaux ou des partis politiques non exclusivement blancs. Peter Botha réinstaure également les droits politiques des Indiens ou des Métis, abolissant même en 1986 la loi sur les laissez-passer ou l'interdiction des mariages mixtes. Mais ces brutales avancées, loin de calmer la colère des Noirs, encouragent ces derniers à réclamer davantage, et notamment le droit de vote pour tous. Archives Antenne 2, 16 août 1985.
Déception et amertume dans la communauté noire sud-africaine et dans les capitales occidentales après le discours hier du chef de l'État, M. Peter Botha. On s'attendait à ce qu'il annonce des réformes suffisamment importantes pour au moins désamorcer la situation qui a fait 600 morts dans ce pays en un an. En fait, ces réformes sont très, très modestes et surtout elles ne règlent en rien le problème de l'apartheid ou celui du droit de vote pour les Noirs. Elle se borne à quelques ajustements administratifs. Du coup, la tension ressurgit et le couvre-feu a été décrété hier à Soweto, l'immense cité dortoir de Johannesburg.
L'avenir glorieux pour notre pays que nous avons entrevu hier soir,
Desmond Tutu,
a été sacrifié à des considérations politiques de la pire espèce.
chicks, look at them chicks, God. Look at them chicks, God. Them chicks, look at them chicks, God.
Par le groupe Monoi & Son, datant sans doute du milieu des années 80, et illustration d'une vague lo-fi synthétique prenant peu à peu le pas de la musique disco. Tandis que les tensions ne cessent de grimper, que l'année 86 voit l'éclatement d'immenses grèves, la musique accélère l'affirmation du ras-le-bol. En 87, une nouvelle loi abolit les emplois réservés aux seuls blancs. Cette même année, le blanc Johnny Clegg chante avec son nouveau groupe Savuka la chanson Asim Bonanga. Nous ne l'avons pas vu en Zoulou, s'interrogeant sur l'état de santé de Nelson Mandela, emprisonné depuis plus de 30 ans. En août 89, Frédéric De Klerk remplace Peter Botha à la tête du pouvoir. De Klerk, pourtant conservateur à l'origine, comprend que la partie est jouée. Dans la foulée sont lancées les négociations pour le démantèlement de l'apartheid. Le 2 février, coup de tonnerre, l'ANC est de nouveau légalisé. Et puis, quelques jours plus tard, après 27 années d'emprisonnement, c'est Mandela, 71 ans, dont Frédéric De Klerk annonce lui-même la libération prochaine.
I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison on Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m.
Je suis maintenant en mesure d'annoncer que Nelson Mandela sera libéré demain dimanche vers 15h à la porte de la prison Victor Verster. Hier soir, j'ai rencontré Nelson Mandela au Cap. Notre entretien a porté sur deux points. La question de l'état d'urgence et celle des prisonniers détenus pour des raisons politiques ou en exil à l'étranger pour les mêmes raisons. J'ai souligné combien il était important de créer des conditions qui me permettent de lever l'état d'urgence sans que la loi et l'ordre soient mis en péril. Les yeux du monde entier sont maintenant braqués vers les Sud-Africains et nous avons tous l'opportunité et le devoir de prouver que nous sommes capables d'une évolution pacifique vers une nouvelle Afrique du Sud.
Le 11 février 90, donc, Nelson Mandela sort de prison, le reste relève de l'histoire. Archives, 11 février 1990.
Premier pas d'homme libre, les portes de la prison Victor Verster sont derrière lui, devant une foule de sympathisants et des cris « Liberté, liberté ». 15h15, heure de Paris, Nelson Mandela vient de quitter sa prison. 27 années de sa vie se sont écoulées, 27 années passées derrière les barreaux. Démarche hésitante, comme surpris par cette foule, comme surpris par cette liberté tant attendue, Nelson Mandela marche, la main de Winnie, sa femme, dans la sienne, serrée. Sous forte escorte policière, le cortège de voitures quitte la prison pour la ville du Cap. Là, depuis ce matin, une foule compacte, au moins 50 000 personnes, sous une chaleur torride, attend. Enfin, le moment tant attendu, la première apparition du leader noir au balcon de l'hôtel de ville. À ses côtés, prenant la parole, Walter Sisulu, son compagnon de combat, libéré en décembre dernier. Moment historique, les premières paroles en public de Nelson Mandela. Les Noirs d'Afrique du Sud attendaient cela depuis 27 ans.
Comrades and fellow South Africans.
Mes amis, mes camarades et mes compagnons de sang, je vous salue tous. Au nom de la paix, de la démocratie et de la liberté. Je me tiens devant vous, non pas en tant que prophète, mais en tant qu'humble serviteur de vous, le peuple.
Dans ce climat de ferveur, en juin 91, tombent finalement les derniers piliers de l'apartheid. L'Afrique du Sud, toutefois, n'est pas au bout de ses peines. Passé l'union sacrée, accompagnant l'accession au pouvoir de Mandela, le pays devra affronter d'autres périls, notamment sociaux, comme on le verra la semaine prochaine dans un second volet, au son notamment du Kwaito qui envahira les pistes de danse. Pour l'heure, on se quitte avec ce titre intitulé « My Brother », sorti en 1989 par le groupe The Survivals. Ainsi se referme ce numéro de Jukebox. Ce soir, l'Afrique du Sud, la musique contre l'apartheid, une émission diffusée pour la première fois le 22 février dernier, préparée par Lily Cornert, Antoine Villose, Clary Monac, Annie Signoret et Catherine Péchin. Rendez-vous sur franceculture.fr pour la liste des morceaux diffusés, une bibliographie, quelques liens utiles et la possibilité de nous faire part de vos commentaires. À la technique, c'était Delphine Baudet, Guillaume Baldi à la réalisation, au micro et au stylo à Maurice Chardot. À demain 19h pour la suite de cette plongée en Afrique du Sud. Nous serons cette fois dans les années post-apartheid. Oh, oh, oh.